Alors maintenant que nous savons que la matière est constituée d'atomes qui se regroupent en molécules et que ces atomes ont été bien classés par Mendeleïev dans sa table périodique, les physiciens ont cherché à expliquer les raisons du comportement des atomes, leur mode de fonctionnement, pourquoi les atomes d'une même colonne dans la table ont des propriétés chimiques similaires. Pour décrire les expériences qui ont été effectuées pour répondre à toutes ces questions, nous allons faire un petit saut en avant dans l'histoire des sciences. Début du XXe siècle. Alors c'est à la fin du 19e siècle, en 1897, que Joseph John Thomson va faire une découverte capitale qui est la découverte de l'électron. Alors l'électron, c'est une particule qui, nous dit Thomson, est à l'origine de toute l'électricité. C'est une particule chargée qui, va véhiculer les courants, qui va être responsable des phénomènes d'électricité statique. Et le plus important, c'est que en fait, les électrons sont des constituants des atomes. Et l'électron est même un composant essentiel de l'atome, parce qu'en fait, on se rend compte que dans la table périodique de Mendeleïev, la place des atomes correspond exactement au nombre d'électrons qu'ils contiennent. C'est-à-dire que quand on avance dans le tableau périodique, on trouve des atomes qui, dans leur état initial, ont donc un électron pour l'hydrogène, deux pour l'hélium, trois pour le lithium, etc. Alors, suite à cette découverte, Thomson a proposé un modèle simpliste de l'atome, parce que les électrons sont chargés négativement, mais on sait que l'atome est globalement neutre électriquement. Donc, Thomson va proposer une vision de l'atome comme une substance positive, enfin, chargée positivement, et qui serait, d'après certaines expériences dont on va reparler, qui serait perméable, dans laquelle nagent des électrons chargés négativement et qui assurent qui assure comme ceci la neutralité électrique de l'ensemble. Alors, on a beaucoup critiqué ce modèle, on s'est beaucoup moqué de lui en parlant du cake aux électrons de Thomson, mais ce qui est important, c'est que c'est la première fois depuis la création de l'atome, finalement, qu'on découvre qu'il y a une structure interne à cet atome et que ce n'est pas une unité insécable comme le pensait Démocrite. Et donc, à partir d'ici, de nombreux physiciens ont fait des expériences pour percer les secrets de cette structure interne. Et c'est en 1911 que Ernest Rutherford va effectuer une expérience historique. Il va prendre une feuille d'atomes d'or et bombarder cette feuille avec des particules alpha. Alors, comme on le savait, les particules alpha vont traverser cette feuille. C'est à cause de ce fait que Thomson avait postulé que la substance positive à l'intérieur de l'atome était perméable, parce qu'on savait qu'il y avait des choses qui traversaient les couches d'atomes. Mais ce à quoi Rutherford ne s'attendait pas, et il en a parlé plus tard comme l'événement le plus incroyable qui lui soit jamais arrivé, c'est que certaines particules alpha ont rebondi sur la feuille. Et donc, à partir de ça, Rutherford a proposé un nouveau modèle de l'atome, qui serait cette fois non plus entièrement perméable, mais constitué d'un noyau dur positif, hein, puisque comme Thomson, Rutherford a besoin d'un élément positif dans l'atome pour contrebalancer les électrons. Et donc, un noyau dur positif qui attire les électrons négatifs qui, du coup, gravitent autour de lui. Comme la Lune gravite autour de la Terre. Ensuite, à partir des mesures statistiques de Rutherford sur le nombre de particules alpha qui traversent ou ne traversent pas la feuille d'or, on peut estimer un rapport entre la taille du noyau et la taille de l'atome tout entier. Et le résultat, qui est assez impressionnant, est que si on ramène le noyau à la taille d'une pomme, par exemple, eh bien, les électrons vont graviter autour de cette pomme à 1 km de distance. Alors, ce noyau va permettre d'expliquer un peu plus précisément pourquoi le nombre d'électrons d'un atome semblait être en lien avec sa place dans le tableau périodique de Mendeleïev. On a vu qu'il fallait assurer la neutralité électrique globale d'un atome, et donc que le noyau devait être chargé positivement pour s'équilibrer avec le nombre d'électrons qui gravitaient autour de lui. Mais par exemple, un atome d'hydrogène possède un électron, et donc son noyau n'a besoin d'être chargé positivement qu'à une unité, alors qu'un atome d'oxygène qui comporte lui 8 électrons doit avoir un noyau positif mais 8 fois plus chargé qu'un simple noyau d'hydrogène. Alors, on va prendre comme base ce fameux noyau d'hydrogène qui est le noyau de l'atome le plus simple et on va appeler le noyau d'hydrogène proton. Et bien les physiciens vont dire que les noyaux des atomes sont constitués de regroupements de noyaux d'hydrogène, c'est les regroupements de protons, et donc que le noyau d'oxygène est constitué de 8 protons, par exemple. Et là, on peut vraiment, véritablement définir l'identité d'un atome. Le fait qu'un atome soit vraiment un atome d'oxygène, qu'il ait 8 ou 10 électrons, comme ça arrive souvent, c'est le fait que son noyau n'est composé que de 8 protons. On obtient toujours un atome d'oxygène qui est déséquilibré en charge, il a plus d'électrons que de protons, mais vu qu'il a 8 protons, c'est toujours un atome d'oxygène. Et donc finalement, les électrons ne vont plus servir qu'à expliquer les comportements chimiques des éléments. Par exemple, dans le cas de l'hydrogène et l'oxygène, bien pourquoi dans ces proportions, ces atomes s'assemblent pour former des molécules d'eau? Eh bien tout simplement parce que les atomes d'oxygène aimeraient se débarrasser de leurs électrons pour former des simples protons, et les atomes d'oxygène, eux, préféraient récupérer 2 électrons supplémentaires en plus des 8 électrons qu'ils possèdent déjà. Donc les 3 atomes vont se rassembler, mettant en commun les deux atomes d'hydrogène, prêtant chacun un électron à l'oxygène pour que tout le monde acquiert une structure plus stable que la précédente. Alors pourquoi ces atomes ont de telles préférences? Pourquoi l'hydrogène veut-il se débarrasser d'électrons alors que l'oxygène préférerait en avoir plus? Ça, les physiciens l'ignorent encore. Et là, même si l'édifice atomique semble complet et qu'il explique la plupart des phénomènes physico-chimiques qu'on a pu observer, eh bien on se rend compte que cet édifice n'est absolument pas stable. Le début du XXe siècle correspond à une période assez trouble de l'histoire de la physique, où la plupart des théories avaient été bien avancées, avaient permis un certain triomphe de la physique moderne à travers la thermodynamique, etc. Et il y a des failles béantes qui commençaient à apparaître dans la théorie et que personne n'arrivait à expliquer. Et en particulier, le modèle de l'atome qu'on a décrit possède de nombreuses lacunes. Alors, une lacune d'abord par rapport au noyau, parce que on a vu que le noyau était constitué de protons, mais ces protons sont chacun des particules qui sont positives. Et donc, comme les protons, les électrons s'attirent parce qu'ils sont de charge opposée, les protons du noyau, entre eux, devraient se repousser assez violemment, d'autant plus qu'ils sont censés être confinés dans un espace très restreint qui est celui du noyau. Donc on ne voit pas très bien comment le noyau peut être stable. On ne voit pas non plus comment les électrons peuvent se maintenir en orbite autour du noyau. On sait par la mécanique classique que dans cette situation, les électrons devraient perdre de l'énergie et finalement s'écraser sur le noyau de l'atome. Alors voilà, le modèle de l'atome a encore dû subir quelques modifications. 2 ans après Rutherford, en 1913, c'est Niels Bohr qui va proposer une amélioration du modèle atomique pour, en particulier, expliquer cette préférence des atomes à avoir plus ou moins d'électrons qu'ils ne devraient en avoir normalement. Alors Bohr va proposer un nouveau modèle de mouvement des électrons dans l'atome, en considérant que les électrons ne tournent plus librement autour du noyau attiré par les protons du noyau, mais serait astreint à se déplacer sur des orbites précises qu'il appelle orbitales et qui se répartissent par couches autour du noyau de l'atome. Et chaque couche serait conçue pour accueillir un certain nombre d'électrons, la structure la plus stable étant atteinte lorsqu'une couche est remplie. Et ainsi, tout naturellement, on comprend pourquoi dans une molécule d'eau, les atomes d'hydrogène ont tendance à donner un électron, tandis que les atomes d'oxygène ont tendance à en récupérer deux supplémentaires. Eh bien, c'est tout simplement dans le cas de l'hydrogène pour vider sa couche externe afin d'acquérir une plus grande stabilité, et du côté de l'oxygène, au contraire, de remplir cette couche et d'atteindre le niveau d'énergie suivant. Et donc, c'est comme ça que les physiciens arrivent à expliquer tous les assemblages moléculaires qui avaient été référencés depuis Dalton, expliquer pourquoi tels atomes se liaient plus facilement avec tels atomes. En fait, c'était juste une histoire de mise en commun d'électrons pour remplir les orbitales respectives des atomes. Cette solution d'orbital permettait aussi d'expliquer pourquoi les électrons ne tombent pas sur le noyau, puisqu'ils sont astreints à se déplacer sur ces orbites fixes, mais on ne savait pas encore ce qui les obligeait à rester sur ces orbites. C'est la toute nouvelle mécanique quantique qui va répondre à cette question, ou en tout cas modifier légèrement le modèle de l'atome de Bohr pour expliquer ce phénomène d'orbital. Un principe très important en mécanique quantique est le principe d'incertitude d'Heisenberg, qui stipule que pour une particule, on ne peut pas connaître avec précision en même temps la position et la vitesse de cette particule. Et il s'avérait que le modèle de l'atome de Bohr violait cette relation d'incertitude. Donc, le nouvel atome de Bohr qui prenait en compte les considérations de la mécanique quantique laissait place à une notion de probabilité, c'est-à-dire que les électrons ne tournaient pas vraiment autour de l'atome, autour du noyau de l'atome, ils se déplaçaient en effectuant des sauts quantiques, en passant d'un endroit à l'autre instantanément, et à chaque moment, ils avaient une probabilité, une certaine probabilité de se trouver à un endroit plutôt qu'un autre. Et les orbitales dont parlait Bohr sont en fait des régions de la périphérie de l'atome où les électrons ont le plus de chances de se trouver à un instant donné. L'entre-deux-guerres. Deux décennies plus tard, en 1932, c'est James Chadwick qui découvrit une nouvelle particule qu'il baptisa neutron. Alors le neutron, c'est une particule qui a beaucoup de ressemblances avec le proton. En particulier, ils ont à peu près la même masse. Leur grosse différence, c'est que si le proton est chargé positivement, le neutron n'a aucune charge électrique. Et en fait, Chadwick découvrit que les neutrons étaient également des particules constituantes de l'atome. En fait, un noyau d'atome n'est pas uniquement constitué de protons, mais d'un assemblage de protons et de neutrons. Et si les protons vont donner son identité à l'atome par leur nombre et en attirant à eux les électrons qui permettent les réactions chimiques, les neutrons vont eux pouvoir faire varier la masse de l'atome. En effet, si on rajoute un neutron, puisqu'on a toujours autant de protons, on a toujours le même atome. Cependant, on a gagné un peu de masse. C'est grâce à cela qu'on va pouvoir définir les isotopes d'un atome, dont on parle le plus connu étant bien sûr le carbone 14. À l'état naturel, le carbone, c'est le carbone 12, c'est-à-dire que son noyau est composé de 6 protons et de 6 neutrons. Donc, il pèse comme 6 protons, puisqu'un proton et un neutron pèsent à peu près la même chose. Il pèse donc 12 nucléons, et on parle bien de carbone 12. En revanche, Il existe des variétés de carbone, des atomes de carbone qu'on appelle des atomes de carbone 14, où cette fois-ci, le noyau est composé de 6 protons, toujours puisqu'il s'agit d'un carbone, mais de 8 neutrons. Et donc il a une masse de 14 au lieu d'avoir une masse de 12. Alors la découverte du neutron va avoir une importance capitale parce que même si on n'ajoute pas de nouvelles propriétés aux atomes, le neutron va être la clé de toute la physique nucléaire. Un des rêves de la physique atomique était, à l'instar des alchimistes du Moyen-Âge, de transmuter les éléments, c'est-à-dire par exemple de transformer un atome d'hydrogène en un atome d'hélium. Eh bien, avec la découverte de la nouvelle constitution du noyau, c'est-à-dire un assemblage de protons et de neutrons, cette transmutation devenait tout à coup très simple. On avait remarqué les similarités nombreuses entre les neutrons et les protons, donc il suffisait, entre guillemets, de transformer par exemple un neutron en un proton au sein d'un atome pour faire changer cet atome de case dans la table périodique des éléments. Et alors, effectivement, même si on ne peut malheureusement pas transformer de manière aussi simple le plomb en or, le plomb comporte 206 nucléons, donc 82 protons, alors que l'or ne comporte que 197 nucléons, dont 69 protons, c'est tout de même comme ceci que les transformations de fusion et de fission nucléaire ont lieu, et ces transformations dégagent une quantité considérable d'énergie qui va pouvoir être utilisée dans divers domaines, qu'ils soient militaires ou civils. C'est aussi, basiquement, le principe de fonctionnement d'une étoile. Au sein d'une étoile, 4 noyaux d'hydrogène, donc 4 protons, vont se rassembler. 2 d'entre eux vont se transformer en neutrons, et les 4 nucléons vont fusionner pour former un atome d'hélium, donc composé de 2 protons, puisque c'est de l'hélium et de 2 neutrons. Et cette réaction va dégager de l'énergie qui va permettre au Soleil de briller. Alors, malheureusement, le neutron n'est pas la clé de la stabilité du noyau, parce que même en présence des neutrons, les protons continuent à se repousser et devraient détruire le noyau qu'ils composent. Et donc, les physiciens ont dû introduire une nouvelle force qui s'exercerait entre les nucléons du noyau et qui s'appelle la force nucléaire ou interaction forte. Mais cette force va mettre très très longtemps avant d'être comprise. Les premiers grands travaux sur la force nucléaire ont été menés par Hideki Yukawa, qui est un physicien japonais et le premier à avoir reçu un prix Nobel. Mais malheureusement, il faudra encore attendre 1965, puis 1970, pour que les véritables mécanismes de la force nucléaire soient bien compris par les physiciens. Finalement, l'essentiel de la chimie moderne, une grande partie de notre physique actuelle, s'appuie sur les travaux qui ont permis de comprendre de mieux en mieux la structure interne de la matière, de comprendre de quoi est véritablement constitué tout ce qui nous entoure. Alors que c'était finalement une interrogation purement métaphysique dans la Grèce antique, c'est devenu aujourd'hui un outil très puissant qui nous permet de manipuler la matière au travers de la chimie, mais également de nous donner accès à d'autres formes d'énergie que celles qui existent déjà dans la nature. Et c'est aussi un ensemble de découvertes qui ont permis le développement de la physique dans des directions qu'on n'aurait jamais soupçonnées, comme c'est le cas par exemple en mécanique quantique ou en relativité. Voilà, c'est ainsi que se termine ce premier numéro d'Il était une science. N'hésitez pas à faire part de vos commentaires sur le site de Transistor, et à la prochaine.